Lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel.
Les gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir sur la 93.5. Nous sommes au vendredi 26 juillet 2024. Il sonne 11h sur votre radio. Merci d'être toujours fidèle à l'émission Club de la Presse. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre alors partout au Togo et aussi à l'extérieur, bien sûr, alors du Togo. Nous sommes aujourd'hui au cinquième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était d'ActiV est à la mise en onde. Jérôme Dakoucha sur la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi pour débattre, bien sûr, alors de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et n'oubliez pas, vous aussi, vous pouvez participer à cette émission à partir de midi. Et c'est sur nos deux numéros, 90 86 35 35, 91 36 63 75. C'est le principe de l'émission, puisque déjà à partir de midi, vous pouvez entrer en ligne avec nous pour discuter et parler des sujets discutés ici au Club de la Presse. Confrères journalistes en studio déjà avec moi, c'est Firmin Tekko Agbo. Firmin, bonjour.
Bonjour Pascal Lossou, merci de m'avoir invité.
J'espère que tu vas bien.
Oui, je vais bien avec la grâce de Dieu.
Tu as bien passé la semaine?
Oui, bien évidemment, Dieu étant avec nous, tout s'est bien passé et Dieu étant toujours avec nous, l'avenir sera beaucoup meilleur.
Voilà, je pense quand même que c'est notre espérance. L'avenir sera beaucoup plus meilleur qu'aujourd'hui surtout.
Tout à fait, parce que vous savez, quand vous lisez Jérémie 31, verset 17, il est écrit, il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Et la Bible va loin en disant, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire simplement que la vie, en réalité, c'est une succession d'obstacles, de problèmes. Ce n'est pas facile, mais au fur et à mesure que les jours passent, au fur et à mesure que tu traverses des problèmes, tu dois t'attendre à ce que l'avenir soit meilleur. que tu seras sauvé, que tu auras la solution à tous tes problèmes, à presque tous tes problèmes. Donc il faut toujours garder l'espoir et surtout garder à l'esprit que la vie c'est une question de persévérance. Rien ne se donne gratuitement comme ça. Donc c'est si tu pries aujourd'hui, tu as peut-être la solution, demain tu pries, tu n'as pas la solution, ne te dis pas que c'est fini. Non, il faut persévérer. Ce sont les persévérants qui finissent toujours par garder ou avoir la victoire. Donc moi je demande à tout le monde, à tous ceux-là qui traversent des moments difficiles, de garder vraiment espoir, parce que à l'avenir nous allons tous sourire.
J'ai l'impression d'écouter un pasteur ou un apôtre. Et c'est l'apôtre Firmé Tekou Agbo.
Non, vous écoutez simplement un simple chrétien qui croit au Seigneur Jésus, pour qui le Seigneur Jésus est mort, il est ressuscité. Un simple chrétien qui attend l'avènement de son Seigneur. On sait que la Bible, on sait que ce Seigneur en qui nous croyons reviendra et il nous prendra avec lui et nous allons vivre éternellement avec lui. Nous croyons en lui et c'est lui notre force. D'accord. C'est lui notre persévérance. C'est lui notre gloire.
Merci beaucoup, Firmin. C'est lui notre gloire. Je sais que celui-là qui n'est pas aussi moins croyant et même, je dirais, un évangéliste, c'est Thierry Afanoukoui. Thierry, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. Ah oui, je suis heureux d'entendre ce matin Firmin qui parle de la persévérance. Je crois que c'est important dans notre marche ici-bas. Il faut persévérer. Ce que nous prenons aujourd'hui comme des modèles, des exemples, je crois qu'ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui, au bout de leur persévérance. Donc c'est important. Et puis il faut se donner des objectifs dans la vie et se donner les moyens pour y arriver. Il faut avoir la foi. C'est très important, surtout dans notre pays où tout est difficile. Si vous n'êtes pas persévérant, si vous n'avez pas la foi, je ne crois pas que vous pouvez s'en sortir. Donc c'est très important, Firmin a dit ce matin.
C'est très important. Alors, et Thierry, est-ce que vous comprenez que déjà ces derniers temps, dans le rang des journalistes, on retrouve plus des pasteurs, on retrouve plus des évangélistes, des gens quand même qui se donnent à la foi chrétienne?
Ah oui, c'est une bonne chose. Vous savez que notre métier est transversal.
Sans oublier même des chantres. Hein?
Ah oui, et surtout que je ne dirais pas que nous sommes des maîtres de la parole. En tout cas, nous savons manier la parole dans tous ses sens possibles. C'est pour cela d'ailleurs que certains ont peur de nous faire des confidences, parce que faire des confidences à des journalistes, du jour au lendemain, vous risquez de voir cela à la place publique. Donc c'est une bonne chose que des journalistes soient des croyants et des pratiquants, des gens qui apportent la bonne nouvelle pour que des âmes soient sauvées pour le royaume de Dieu. C'est une bonne chose.
C'est une bonne chose.
C'est à encourager.
D'accord, c'est à encourager. Lui n'est pas journaliste, mais c'est un analyste politique. Et il est souvent avec nous dans cette émission. C'est Sylvanus Akanro. Sylvanus, bonjour.
Bonjour, bonjour à chers amis qui sont sur le plateau. C'est un plaisir pour moi de venir ici pour apprendre de vous et partager le peu que je sais, que je connais.
Je ne sais pas si vous aussi vous êtes un homme de foi.
Ah oui, je suis un chrétien pur et dur. Il est important aujourd'hui d'avoir la foi en Dieu, parce que notre passage ici sur cette terre est tellement éphémère que quelqu'un a dit que nous vivons dans une très grosse obscurité. Donc ne pas avoir la foi aujourd'hui, c'est se perdre très rapidement. Perdre de l'espoir et perdre malheureusement l'essence même du pourquoi nous sommes ici-bas. Donc il est important d'avoir la foi chrétienne, ce qui nous permettra justement de croire en un lendemain meilleur. Donc c'est ce que la chrétienté nous apprend et je pense qu'il est essentiel que tout le monde vienne à Christ.
Alors, donc on le dise que le christianisme c'est une pratique et il est très important de pratiquer surtout ses vertus et aussi de l'éthique, telles que les autres religions également prônent l'éthique. Et ça se passe aussi là. Et merci surtout à vous tous qui nous suivez, toutes les tendances religieuses. Nous les saluons à travers cette émission. Alors, Firmin, nous commençons commençons cette émission avec ce sujet. Et c'est le journal Le Canard Indépendant qui nous donne ce sujet ce matin. Et le journal parle alors de la fabrication des produits cosmétiques. Et le journal écrit « Fabrication des produits cosmétiques quand les salons de beauté se transforment en école de cosmétologie ». Alors, en fait, j'ai lu l'article et on comprend tout simplement que sur les réseaux sociaux, ces derniers temps, qu'est-ce qu'on constate ? On voit tout simplement qu'il y a des gens qui s'improvisent, des cosmétologues, des gens quand même qui proposent des produits au public. Et quand ça vient, ou du moins quand ces gens-là viennent, finalement les dégâts sont énormes. Et mais parce que ils n'ont pas fait une étude appropriée en cosmétologie, donc ce qui fait que finalement, alors c'est des dégâts qui s'en suivent. Et comment vous appréciez cela?
Non, moi je me dis la question est simple. La question est simple. Vous avez dit tout à l'heure que des journalistes sont. Il y a assez de journalistes au Togo qui sont en train de devenir pasteurs. Sur les réseaux sociaux, on a une multitude de pasteurs. Il y a des gens qui s'improvisent pasteurs, des gens qui s'improvisent agriculteurs, des gens qui s'improvisent. Il y a cette expression-là, coach. Des gens qui s'improvisent coach. Tout le monde est devenu un donneur de leçons. Des gens qui s'improvisent grand spirituel. Donc la question est de savoir si toi-même tu es stable. Si tu es stable, tu dois savoir qu'il y aura toutes ces choses-là. Mais première chose, tu es stable. Deuxième chose, tu dois savoir là où tu veux aller. Quelles sont tes ambitions par rapport à la vie? Où est-ce que tu es en train d'aller? Si ton ambition, c'est de t'éclaircir la peau, donc lorsque tu vas tomber sur des produits cosmétiques ou des cosmétologues, mais tu vas en faire des amis. La question est simple. Il faut savoir juste là où tu veux aller. Si toi, tu es femme, et tu veux éclaircir ta peau, va sur les réseaux sociaux, tu vas trouver les cosmétologues. Si tu es femme, mais tu veux vivre simplement, le plus simplement possible, tu ne seras pas gêné lorsqu'on va faire devant toi, on va multiplier des publicités devant toi. La question est de savoir là où tu veux aller. Sinon, regardez, il y a tout sur les réseaux sociaux. Mais c'est une question d'ambition, c'est une question de stabilité spirituelle. La plupart de ceux-là qui s'adonnent à ces genres de produits sont des gens, excusez-moi, qui psychologiquement souffrent de quelque chose. Quelquefois, qui sont complexés. C'est ça, en fait. Ils sont complexés. Ils ne sont pas heureux dans leur peau. Ils ne sont pas heureux de la nature que Dieu leur a donnée. Ils ne sont pas heureux de l'âme que Dieu leur a donnée. Ils ne sont pas heureux de la potentialité que Dieu leur a donnée. Donc, ils sont émerveillés. Non, ils cherchent à s'émerveiller par des produits qui peut-être peuvent détruire leur vie. La question est toute spirituelle. Ceux-là qui commettent, excusez-moi, ou qui tombent dans ces dégâts, c'est parce qu'ils sont, excusez-moi, déséquilibrés. Pour conclure, ce que moi je voudrais dire, mais vous devez savoir là où vous voulez aller. Un homme n'a pas besoin que tu éclaircisses ta peau avant qu'il tombe amoureux de toi. Un homme n'a pas besoin que tu sois extrêmement belle avant qu'il tombe amoureux de toi. Il n'en a pas besoin. Moi je tombe amoureux. Moi actuellement j'aime. Vous imaginez, actuellement j'aime. J'ai quelqu'un que j'aime. Vous imaginez? Donc je n'ai pas besoin que cette personne-là se change en cette personne que je n'ai jamais connue. Mais je voudrais voir cette personne naturellement belle. C'est ça qui est important. C'est l'erreur que nos femmes ou nos jeunes sœurs ou nos mamans commettent. Les hommes ne sont pas compliqués. Vous avez tout pour séduire un homme. Quand on a l'habitude de dire que l'homme est le chef de la famille. Mais en réalité, quand vous voyez les choses, la femme est plus puissante que l'homme. La femme est plus puissante que l'homme. Cette femme qui est plus puissante, lorsqu'elle arrivera à découvrir son pouvoir, sa puissance, je ne pense pas qu'elle pourrait une fois songer à aller chez une cosmétologue.
D'accord. Et Thierry, on parle plus alors des cosmétologues 2.0, puisque c'est des gens quand même qui n'ont aucune base en cosmétologie, mais qui sont là et sont des vendeurs d'illusions aujourd'hui sur les réseaux sociaux et ils font des chiffres d'affaires. Et parce qu'il y a aussi des gens quand même qui s'adonnent à cela.
Oui, malheureusement, les réseaux sociaux sont incontrôlables. Sinon, connaissant notre pays avec les réglementations que nous avons ici et là, on aurait régulé aussi ce secteur, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est difficile de contrôler les réseaux sociaux. Bien que des fois, on arrête certaines personnes qu'on estime avoir commis des dérives, mais on peut pas tout contrôler au même moment. Maintenant, je dirais que c'est la fin qui nous amène dans toutes ces choses-là. C'est la fin parce que les gens sont là sans véritable job, sans véritable boulot. Les gens cherchent à gagner leur quotidien. Donc, c'est vite fait de s'improviser cosmétologue. Alors que, avant de s'attribuer ce titre-là, il faut des études parce que les qui parlent de
cosmétologue.
Cosmétologue. Mais vous allez y arriver.
Je ne suis pas habitué avec
justement.
Et les dermatologues, je crois qu'il ne doit pas avoir trop de différence. C'est des gens qui travaillent sur la peau. Et vous savez que notre peau est très délicate. Donc, n'importe qui ne doit pas s'aventurer dans ce domaine-là si vraiment il n'a pas été formé. Ça fait qu'aujourd'hui, les gens ont des couleurs, je dirais, à couleur arc-en-ciel. Parce que peut-être le haut est rouge, le milieu est vert et le bas est noir. Donc, c'est ce à quoi nous assistons malheureusement. Et souvent dans cette affaire-là, c'est les femmes, surtout les jeunes filles, qui se donnent à ça. Malheureusement, c'est ça. Et puis, autrefois, c'était des produits qui coûtaient. Mais aujourd'hui, c'est des produits qui ne coûtent pas, donc tout le monde peut les avoir facilement, donc c'est vite fait. Hein, vous, chaque jour, il n'y a pas de jour. Et c'est un peu comme aussi les herboristes. Hein, donc chaque jour, les réseaux sociaux sont inondés de ces choses-là. On vous livre des recettes. Si attention, vous vous hasardez à les pratiquer, vous vous retrouvez demain dans d'autres choses avec des conséquences pas possibles.
D'accord. Sylvanus, est-ce que au fin fond, nous les hommes aussi, nous n'en sommes pas aussi la cause? Parce que aujourd'hui, les filles pensent que les hommes préfèrent plus alors des filles teint clair.
Non, mais écoutez, moi je pense simplement que de la même façon, il y a des hommes qui aiment les teints clairs, il y en a aussi qui aiment les teints plus foncés. La réalité, ce n'est pas tant la couleur de peau que vous avez, c'est ce que vous arrivez justement à faire ressentir à l'autre qui vous voit. On va se rendre compte qu'il y a des chefs d'État qui ont épousé des femmes qui ont la peau noire. C'est vrai qu'il y en a qui épousent les blanches, mais il y en a aussi qui préfèrent la peau plus foncée. Tout comme les femmes aussi aiment les hommes qui sont foncés. Donc je pense que le problème ne se pose pas fondamentalement sur la cosmétologie en tant que comment dire ça, en tant que matière, mais c'est par rapport à ce qu'ils pratiquent. C'est pareil, je pense que les années m'ont dévancé en disant simplement que c'est pareil pour le phénomène de coach. Il y a les coachs, il y a les herboristes,
les
radithérapeutes, et toutes ces personnes exercent sans forcément avoir l'accréditation nécessaire pour le faire. Maintenant, je veux apporter une petite nuance à mon confrère, à ce que M. Thierry disait, quand il parlait du fait que c'est compliqué de gérer les réseaux sociaux, de contrôler les réseaux sociaux. C'est peut-être ce que beaucoup se disent quand ils viennent sur Internet et vendent des choses à tout azimut. Là, il y a une loi portant réglementation de l'Internet. Okay. Donc, vous pouvez être poursuivi parce que vous avez eu à faire, dire ou agir sur Internet d'une certaine façon. Donc, il est important aujourd'hui que, il est important en tout cas qu'il y ait une certaine réglementation, qu'il y ait une retenue dans nos agissements sur Internet, que ce soit pour vendre, que ce soit pour parler, pour dire des choses, eh bien, que nous soyons sûrs de ce que nous disons, que nous soyons sûrs de ce que nous faisons pour éviter qu'à la fin, que nous ne soyons pas poursuivis.
Alors, Firmin, c'est vrai qu'il y a une réglementation. Le législateur a prévu justement des lois pour cela. Mais si cela n'est pas appliqué, c'est la faute à qui?
Non, il faut chercher à savoir tout d'abord le contenu de ces tests. Par exemple, celui-là qui trouve un produit à la pharmacie, peut-être qu'il est classé la peau, qui vient faire sa publicité sur Internet, il ne peut pas être poursuivi. Parce qu'il n'y a rien d'illégal. Mais le problème fondamental, c'est mon deuxième point, c'est celui-là qui consomme, c'est le consommateur. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il veut ce consommateur-là? Qu'est-ce qui nous pousse à ça? Et puis ce n'est pas parce que vous avez un petit problème que vous allez vous adonner à tout le monde. Peut-être les gens ont essayé, ça a marché pour eux. Mais tu ne connais pas ta nature physique. C'est ça, en fait. En fait, le problème n'est pas trop le législateur, parce qu'il y a une réglementation qui régit cela. Mais il y a des, par exemple, moi je donne un exemple, par exemple, le coach ou le spirituel qui vient et qui donne des conseils. Pour certains, ça marche. Pour d'autres, non. Vous n'êtes pas poursuivre le spirituel. Vous n'êtes pas poursuivre. Il y a des gens, beaucoup, qui deviennent coach. Et puis quand ils racontent, il y a des choses, des bêtises qu'ils racontent. Vous dites, vous ne pouvez pas, vous allez leur dire quoi? Et quand, par exemple, moi j'écoutais un pasteur qui disait que, bon, on dit la Bible dit le divorce, la Bible n'a pas interdit. Non, il dit, la Bible n'a pas interdit la polygamie, tout ça. Quand il dit ça, par exemple, nous, moi je suis chrétien, la polygamie interdite par la Bible, vous imaginez. Mais quand le gars dit cela, que lui, pasteur, il sait que la Bible, il sait, pour lui, la Bible autorise la polygamie, vous allez le poursuivre? Vous ne pouvez pas le poursuivre. En réalité, ça dépend de celui qui consomme l'information. C'est lui. Il faut que nous soyons. C'est pour cela que.
C'est aussi ça, la liberté d'expression.
Oui, c'est la liberté d'expression. On ne peut pas interdire aux gens de parler. On ne peut pas interdire aux gens de faire le commerce en ligne.
Mais ça ne deviendra pas quand même un libertinage d'expression.
Non, ce n'est pas un libertinage. Ce qui se passe, par exemple, le gars ou la dame a son salon de coiffure. Et ça marche pour elle ou pour lui. Et maintenant, il a des produits, il reçoit des clients. Il fait juste la pub. Pour sa société, vous allez le poursuivre, vous allez la poursuivre. Ce n'est pas possible. Mais c'est le consommateur qui est le problème. Vous imaginez, c'est le consommateur. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est ton ambition? Mais c'est pour ajouter encore, nos femmes, on n'a pas besoin que vous soyez Madame Tinclair. Non, on n'a pas besoin que vous soyez tellement, vous soyez dépigmenté. Non, on a juste besoin de vous, tel que nous vous avons vu au premier jour. Quel est ton premier amour? C'est ça ce que nous voulons. Je disais pour conclure que les femmes qui nous écoutent, qu'elles sachent qu'elles sont plus puissantes. Regardez ce que la femme fait le matin. Elle fait le ménage. Elle lave les enfants. Elle lave vos habits. Et elle vous fait à manger. Et la nuit, elle se donne encore à vous au lit. Vous, hommes, vous vous levez le matin. Vous faites votre douche. Vous allez au boulot. Et vous revenez après. Entre vous et cette femme-là qui travaille beaucoup plus. Qui est beaucoup plus puissant, qui est beaucoup plus résistant, c'est cette femme. Alors que les femmes sachent qu'elles ont certains pouvoirs nous maîtriser. Ce n'est pas avec des produits pharmaceutiques, ce n'est pas avec des produits cosmétiques qu'elles vont nous maîtriser. Elles ont tout en elles. Qu'elles soient sûres d'elles.
D'accord. Alors, Thierry, nous allons quitter le sujet, puisque on en a tellement discuté.
Mais vous permettez, avant de quitter le sujet, oui. je veux corriger quelque chose. Peut-être je me suis mal expliqué. Quand je parlais de tests autres, là, certes, il y a les tests, mais par rapport à la régulation, c'est là où le problème se pose. Les tests existent. Pour le suivi, la réglementation et la
l'applicabilité.
Voilà, donc il y a un sérieux problème. Donc c'est ce que je voulais apporter.
D'accord, merci beaucoup pour la précision. Alors Thierry, je reste toujours avec vous pour qu'on s'intéresse à ce sujet où cette sanction de l'ARCEP à Move Africa Togo et l'ARCEP inflige alors une amende de 1,2 milliard de francs CFA à Move pour indisponibilité alors de ses services, et c'est plus de 2 ans après avoir mis en demeure Move Africa Togo pour des faits d'indisponibilité alors de ses services, l'autorité de régulation des communications électroniques et postes ARCEP a infligé mercredi 24 juillet une amende de 1,26 milliard de francs CFA à l'opérateur correspondant à 2% alors de son chiffre d'affaires certifié de l'exercice 2023. Alors Thierry, comment vous avez accueilli alors cette sanction infligée à Move Africa Togo?
Alors, en tant que consommateur, en tant que Togolais, je suis heureux de cette décision de l'ARCEP. Sauf que l'ARCEP fait dans le bling-bling. Je m'explique parce que des fois, quand elle communique de la sorte, après, l'affaire se retrouve au niveau de la justice. Mais la finalité, l'ARCEP ne revient pas ou ne revient plus nous dire si vraiment cette pénalité a été payée ou pas. Parce que si vraiment ces opérateurs-là de téléphonie mobile payent ces gens d'amende, je ne crois pas qu'ils doivent prospérer dans la médiocrité qu'on vit, qu'on assiste chaque jour quand on se met à utiliser leur service. Donc, il faudrait que, après avoir sorti le premier communiqué, si demain, Move paye véritablement cette amende-là, que l'ARCEP revient nous dire que l'amende a été payée. Comme ça, nous les consommateurs, nous les clients, si jamais il y a encore des défaillances dans les services de ces opérateurs-là, nous aurons le courage de saisir l'ARCEP. Il y a déjà des années où l'ARCEP demandait à ce qu'on puisse réduire le coût de la communication et de l'Internet. Mais il n'y a pas de changement notable jusqu'à aujourd'hui. La connexion, l'Internet est toujours cher au Togo. La communication est toujours chère au Togo. Alors que le SMIG est à combien? À 50 000. Vous ne pouvez pas, à 50 000 et quelques.
52 000,
et, voilà. Vous ne pouvez pas être payé à 52 000 et quelques et s'offrir le luxe d'avoir une connexion peut-être de 15 000 à la maison par mois. Vous ne pouvez pas. Vous enlevez les 15 000 là de vos 52 000, il vous reste combien?
Il y a certains payer, qui sont même payés moins que ça.
Et il y a aussi un autre problème qui s'est posé avec le Wi-Fi zone, tout ça là. Il y avait eu du boucan autour de la chose, mais après, on n'en sait pas. Pas plus que ce matin même, je recevais un message de Togocom, l'autre opérateur, qui disait que ses services entre-temps avaient eu des problèmes, quoi. Donc, c'est chaque jour. Alors que ces opérateurs-là, par rapport à leur cahier de charge, ils ont plutôt obligation d'investir dans le renouvellement de leurs infrastructures pour étendre le réseau, pour plus d'efficacité de leur réseau. Vous sortez, vous êtes à certains endroits de Lomé pour communiquer, c'est des problèmes. Pour communiquer, c'est des problèmes. Donc, il faudrait que l'ARCEP puisse être plus aller au-delà de ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Nous voulons des résultats et même les frais qu'on nous prélève sur Timoni ou Flouz. Entre-temps, il y avait aussi une communication comme quoi il devrait y avoir réduction. Togocom a essayé, mais après, il s'est ravisé. Et on a ramené encore pratiquement les anciens tarifs. Donc, je ne comprends pas aussi trop le jeu de l'ARCEP. Faudrait qu'on puisse aller au-delà de
Cela. Ok. Et Sylvanus, il y a le journal Symphonie aussi qui écrit hein, à la une alors de bien sûr, ce matin, encadrement alors de l'activité Wi-Fi Zone Flop, Togocom paie le lourd tribut d'une décision impopulaire de l'ARCEP. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que l'ARCEP, oui, prend des décisions et arrive à sanctionner, mais finalement le citoyen lambda ou le consommateur n'arrive pas à retrouver l'impact alors de ces décisions?
Oui, bien entendu, je pense que c'est un sentiment qui est partagé par tous. Hein. Les populations sont le souffre-douleur de toutes les décisions qui sont prises. Je pense que l'essentiel a été déjà dit sur cette question-là. Il y a, bien entendu, des décisions qui se prennent, mais qu'on ne remarque pas finalement leur faisabilité ou leur concrétisation sur le terrain. L'autre question que j'ai envie de me poser, c'est que, oui, le MOVE a été sanctionné et donc il est dans l'obligation de l'opérateur, est dans l'obligation de retourner les 1 milliard 200 millions à l'ARCEP. Mais l'autre question que je me pose, c'est les 1 milliard 200 millions auront quoi comme impact direct sur ces populations qui ont subi le préjudice? Parce que les 1 milliard 200, justement, c'est un titre de réparation, en quelque sorte.
Petite goutte par rapport à
ce qu'on gagne. Ils ont dit 2%. Ils ont dit 2%. Donc, c'est quoi leur intérêt, justement? C'est l'ARCEP. C'est comme si, oui, moi j'ai un problème, je viens me plaindre à vous. Maintenant, vous appelez celui qui m'a causé le tort, vous lui infligez une amende. L'amende, maintenant, est payée, encore que ce n'est pas encore le cas dans notre cas de figure. Mais s'il se trouve que MOVE rembourse ce qu'il a remboursé, moi qui ai subi le préjudice, quel est mon intérêt finalement? Qu'est-ce que moi j'y gagne? Je vais simplement finir en disant que l'ARCEP est l'une de ces institutions quand même qui, à mon avis, fait des efforts louables pour permettre aux populations de vivre correctement en termes de communication, mais il est important.
Mais il n'y a pas de
justement, c'est ce que j'allais, dire. Il est important justement que cet impact-là soit significatif et soit, je veux dire, palpable pour cette population qui subit ce tort.
Et oui, mais Ferrin, c'est que l'ARCEP se présente comme le gendarme alors devant ses opérateurs de téléphonie mobile, mais finalement, est-ce que après sanction, on retrouve vraiment l'impact alors sur les consommateurs?
Moi, je dis que l'ARCEP, c'est notre défenseur.
Tout à fait.
En réalité, elle se présente comme notre défenseur. Mais la question est de savoir si on en bénéficie véritablement. Si vous nous défendez. Maintenant, après la sanction, il faut que, à notre niveau, qu'on sente l'impact fondamentalement. Si on ne sent pas ça, ça fait des années. Le problème qui se pose fondamentalement ici au Togo est très simple. La communication est chère au Togo, ce point. La communication est chère au Togo. Qu'est-ce qui fait que les sociétés de téléphonie mobile ne réduisent pas fondamentalement leurs coûts? Qu'est-ce qui se passe? Qu'ils nous disent la vérité, c'est ça en fait. Parce que ce qu'on veut, moi, c'est que moi, je veux appeler, je veux communiquer et puis payer moins. C'est ce que moi je veux. On peut sanctionner. Donc on leur fait des sous, hein. 1 milliard, c'est pas petit, hein. 1 milliard. Regardez par exemple, nous sommes 8 millions d'habitants. Il y a Togo qui prend une partie, une grande partie bien sûr, et Move qui prend une petite partie. Donc mais dans cette petite partie là, on peut
il arrive à s'en sortir.
Donc, si on vous sanctionne, on vous demande de payer un milliard. Vous parce que vous avez un problème, vous avez la justice, on ne peut pas vous demander de payer 1 milliard. C'est parce qu'on sait que vous êtes solvable, vous avez de la liquidité, vous avez de l'argent. Donc si ils ont de l'argent comme ça, c'est nous qui leur avons fait de l'argent, nous leur produisons de l'argent en réalité. Et donc s'ils peuvent avoir ça là, donc ben, il faut pas qu'ils nous négligent. Il faut que l'ARCEP règle ce problème-là pour que les coûts de communication au Togo redeviennent ou deviennent encore beaucoup, beaucoup plus moins chers. C'est ce à quoi nous nous attendons.
D'accord. Oui, oui, Thierry. Finalement, si déjà les amendes et les sanctions infligées à ces opérateurs de téléphonie mobile, l'ARCEP arrive à recevoir ces amendes, comment vous voulez quand même que l'ARCEP gère cela?
Non, l'argent va dans la caisse de l'État. Tout c'est pas l'argent à garder par l'ARCEP. Donc, c'est pour cela que je dis, des fois, je me demande, est-ce qu'il y a du sérieux dans ce qui se fait ou dans ce qu'on nous présente? Parce que depuis que l'ARCEP est ARCEP avec le nouveau DG, Monsieur Gallet, je crois que régulièrement, il y a de ces genres de sanctions ou de ces genres d'interpellations. Mais le service, c'est toujours le même. Ou bien ça a changé entre-temps chez vous.
S'il y a d'autres sanctions, ça veut dire que c'est toujours le
oui, mais si les gars deviennent récidivistes, ça voudrait dire que peut-être qu'ils ne payent pas. Parce que s'ils payaient véritablement, vous ne pouvez pas... ils sont en business. Vous ne pouvez pas... L'argent qu'ils ont gagné, pas aussi facilement. Vous ne pouvez pas à chaque fois répéter ça comme ça. Donc, tout ce qu'on leur demande, c'est d'améliorer la qualité de leurs services, c'est d'investir dans le renouvellement des infrastructures pour que la communication chez nous soit fluide, pour que leurs différents services soient accessibles et fonctionnels tout le temps. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis que, comme je l'ai dit, depuis que le nouveau directeur est là, il y a de ces sanctions-là, il y a de ces interpellations-là, il y a de ces mises en demeure-là. Alors, mais les gars, ils continuent. Donc, s'ils continuent, c'est parce que à un moment donné, ils ne sont pas véritablement inquiétés. Sinon, ça allait changer.
Est-ce que c'est ça qu'il faut aller au-delà de la sanction?
Oui, c'est ça, je dis. S'il y a d'autres mesures, il faut les prendre. Peut-être les menacer de retrait, de licence, ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que le service, c'est pas ça. On se plaint tout le temps. Vous êtes là, vous êtes en train de travailler, vous utilisez la connexion Internet. Parfois, il faut éteindre le routeur 2 ou 3 fois avant de télécharger un seul fichier ou avant d'envoyer un document. C'est ça,
même le téléphone, service. Même le téléphone, il faut l'éteindre quelquefois.
C'est ça, le service. Vous êtes là, on ne parle que de la capitale, Lomé. Mais il y a des endroits, vous êtes
à l'intérieur du pays.
Vous ne pouvez pas téléphoner. Ne parlons même pas de l'intérieur du pays. Donc c'est de ces réalités là c'est parce que les gars ils font de l'argent, mais ils ne veulent plus investir. C'est parce qu'ils ne sont pas inquiétés.
S'il paye, peut-être au cours de 16 années, s'il paye de ces amendes-là deux ou trois fois, quatre fois, je crois que véritablement, je dis de payer véritablement, parce que nous sommes au Togo entre l'annonce qu'ils ont une amende de 1,2, je vous ai dit, eux aussi, ils ont leur soutien. Malheureusement, chez nous, c'est comme ça que ça marche. Avant même qu'ils n'arrivent à avoir leur licence ou bien à s'installer chez nous, c'est des gens du pouvoir du système qui leur ont facilité l'installation, l'accès au pays. Maintenant qu'ils sont là, ils entretiennent tous ces réseaux-là. Donc, quand il y a problème, les gars, ils voient leur lobby, leur soutien qui les défend. Peut-être que le DG, on est au Togo, hein, peut-être que le DG peut sortir ce communiqué-là ou leur flanquer cette amende-là, mais un coup de fil venant de quelque part peut le dire, mais jeune frère, fais attention, oublie cette affaire-là. Et on passe à autre
chose.
Alors,
comme vous dites, on est au Togo. Est-ce que le Togo est un pays atypique?
Mais malheureusement, c'est la réalité. Même si on nous dit d'apporter des preuves, nous savons que c'est comme ça que ça se passe. Qu'on ne se leurre pas. C'est la réalité de notre pays.
D'accord.
Il a bien fait de dire qu'ils vont payer 1,2 milliard. Mais c'est ça, je dis. Est-ce que véritablement, est-ce que dans 3 mois ou 4 mois ou dans 6 mois, on nous dira que Mouva effectivement paye? Et je dis non. Parce que l'ARCEP ne revient pas nous communiquer que véritablement l'amende flanquée à Move à telle période, l'argent a été payé.
D'accord. Sibanus, est-ce que vous pensez aussi que peut-être l'ARCEP doit aller au-delà de ces sanctions?
Oui, mais en quoi faisant concrètement? C'est aussi ça la question. Je pense que le problème est tellement paradoxal que c'est compliqué après de le traiter, nous qui sommes à l'externe. Parce que, bien entendu, si les sanctions étaient véritablement payées, je pense qu'ils feraient l'effort quand même de ne plus répéter les mêmes choses constamment. C'est ce qui est malheureux. Nous sommes dans des États qui peinent à se développer, donc tous les secteurs sont impactés et il peut arriver justement qu'une institution ça soit sanctionnée, mais que malheureusement un coup de fil l'appelle pour intimider, pour donner un ordre qui soit contraire justement à cette interpellation. Donc les populations sont les plus grands perdants dans l'histoire et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est important d'avoir la foi en Christ.
D'accord. Firmin, nous allons quitter le sujet. On va maintenant à Kwekwakandi. Ça, c'est au nord du pays. On sait que le samedi dernier, le Togo a essuyé une attaque terroriste et il y a eu des dégâts. Il y a des pertes de vie humaines et aussi également des matériels qui ont été saccagés. Finalement, vous avez suivi aussi cette information. Il y a même le Niger qui a apporté son soutien au Togo et a présenté également sa compassion au Togo et elle a demandé que le Togo peut compter alors sur son soutien dans la lutte alors contre le terrorisme. Finalement, beaucoup de gens se disent mais ces informations n'ont pas été données officiellement par le gouvernement togolais, mais finalement c'est plutôt le Niger qui nous a confirmé notre propre information.
Est-ce que c'est le Niger qui nous a confirmé notre propre information ou on a l'information mais on ne veut pas communiquer là-dessus? C'est deux choses différentes.
Non, moi, tout d'abord, c'est justement avec ce communiqué du général Tiani qu'on a compris vraiment qu'il y a eu quelque chose comme ça.
Oui, moi je pense que depuis un moment, le gouvernement, c'est ma lecture, elle peut être erronée. Le gouvernement a décidé de ne pas trop communiquer sur cela parce que vous savez, il y a quelque chose. On parle d'acte terroriste lorsqu'il y a communication de cet acte-là perpétré. Parce que le terroriste, ce qu'il veut, c'est qu'en perpétrant l'acte ou en commettant l'acte, en tuant sauvagement, cruellement, que cela soit filmé et divulgué ou diffusé. Et là, lorsque cela sera diffusé et que des gens seront heurtés, leur sensibilité sera touchée, tout ça, donc le terroriste, lui, il est quelque part et il applaudit des deux mains. Donc c'est ça, là, un acte terroriste. Donc quand le gars, il commet l'acte et que personne n'en parle, en fait, il se dit qu'il n'a rien fait, en fait. C'est ça, il n'y a pas de terrorisme sans communication. Donc, c'est pour ce moment que le gouvernement s'en est aperçu et se dit, je ne vais pas communiquer. Parce qu'aussi au-delà de ça, lorsque vous ne savez pas communiquer, vous mettez tout le monde mal à l'aise. Vous faites peur aux gens. Des gens se recroquevillent sur eux-mêmes. Et des familles sont sensiblement touchées. Donc, il y a beaucoup de choses. Parce que vous savez, nous, on voit, on apprend que des choses se passent à l'extérieur. Mais lorsqu'on va régulièrement nous dire que ça se passe sur notre territoire, vous imaginez, on va devenir paranoïaque. C'est ça en fait. Moi, c'est pas que je suis en train de défendre le gouvernement, mais je suis en train de faire une certaine lecture. Donc, le fait qu'ils ne communiquent pas, moi, je me dis, mais au niveau de l'état-major, tout ça, ils vont avoir, lorsqu'il y a des acteurs, ils vont avoir l'information. Par exemple, le président de la police, c'est le chef des armées. Donc, il va savoir lequel discours tenir à ses hommes ou à sa troupe. Mais à nous, peut-être, on nous casse des informations parce qu'on se dit, peut-être, nous ne sommes pas encore matures. Excusez-moi, hein, nous n'avons pas cette maturité, ce degré de maturité pour pouvoir apprécier, pour pouvoir appréhender. Donc, sur ce point, moi, je ne flingue pas le gouvernement parce que trop communiquer, c'est faire plaisir aux terroristes. Et puis, ils vont répéter ça. Mais lorsqu'ils commettent cet acte et ils ne voient pas une communication offensive, ils ne voient pas une communication véritablement sérieuse, ils se disent, mais dans ceux-là, ils ne sont pas sensibles à ce que nous on fait. Donc, ils se prennent du temps pour étudier un peu la psychologie de ceux-là qui dirige le pays.
Mais Firmé, là, le souci, c'est que même sans communication, les actes terroristes continuent.
Oui, et ça continue. Regardez, sans communication, ça continue. Mais j'ai vu certaines choses et je me dis, peut-être ce sont des terroristes eux-mêmes qui ont filmé. Parce que quand je vois, j'ai vu des images, pas possible, je me dis, parce que c'est ce qu'ils font. Quand vous ne communiquez pas, eux, ils communiquent. Mais c'est-à-dire, vous voulez qu'eux communiquent. Et le gouvernement aussi va communiquer, va diffuser des images. Tout d'abord, non, on a parlé tout d'abord ici de l'Internet et de la réglementation.
Sûrement, il y aura aussi la guerre de communication.
Oui, il faut protéger. Il faut protéger. Moi, je me rappelle très bien avoir vu les images de l'attentat du 13 novembre en France. On avait flouté les images. Mais ici, la plupart de ces images qui circulent, on ne les floute pas. Ce sont des gens qui sont morts pour nous, qui sont morts pour notre sécurité. Il faut qu'on respecte leur dignité. Il faut qu'on donne une certaine considération à leur famille par rapport à ce qu'ils ont eu à donner. Ils ont donné leur vie pour nous. Donc, il faut qu'on respecte ça. Donc, le gouvernement ne peut pas se permettre de publier ces images-là. D'accord. Mais pour conclure, moi, je voudrais présenter mes sincères condoléances au FAT, à tous ceux-là, toutes ces familles éplorées, à l'état-major, au chef suprême des armées. Parce que vous savez, quand ça se passe comme ça, vous êtes chef d'État, ce n'est pas facile. Hein. Il faut que vous, régulièrement, vos collègues vous assistent parce que ça déséquilibre.
Thierry, est-ce que vous comprenez aussi cette stratégie de communication alors du gouvernement qui adopte alors le silence?
Oui, c'est un choix. Je crois que depuis le début de cette affaire-là, ils ont essayé de communiquer, mais par après, ils font blackout sur tout ce qui se passe. Et quand vous remarquez bien, au début, les images circulaient. Mais à un moment donné, on n'avait plus les images et les vidéos. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est ceux qui sont venus attaquer qui ont pris des images et les ont diffusées par après? Parce que pour ces dernières attaques, il y a des vidéos, des images qui abondent. Et quand, à un moment donné, l'autorité a refusé de communiquer sur ce qui se passe, vous avez vu aussi que dans les médias nationaux, je ne sais pas s'il faut dire, même si aucun ordre n'a été donné, je ne sais pas, c'est par patriotisme ou par solidarité, bon, je ne sais pas trop, c'est difficile pour nous aussi, les médias nationaux, de parler sur cette affaire-là, même si on a toutes les informations, les recoupements, et tout ce qu'il faut pour aborder ce sujet-là, les gens n'osent plus à en parler, parce que on se dit, parce que de l'autre côté aussi, il y a la hack qui suit tout ce qui se passe, et vous faites bien de donner une information, alors que toute l'information n'est pas bonne à donner. Il y a ça aussi. On attend de voir. C'est pas encore trop tard, puisque quand ça a commencé, des années passées, avant que le chef de l'État ne donne un chiffre dans une interview sur ce qui se passe ou le nombre de victimes et tout cela. Je crois à l'époque, il disait que est-ce qu'il faut se réjouir de la mort de quelqu'un, même si c'est votre pire ennemi. Donc, je crois que c'est ce choix-là que le gouvernement a fait. Et puis, en ces moments difficiles, je crois que en tant que Togolais, nous devons rester mobilisés et solidaires avec les forces de défense et de sécurité, parce que sinon pas notre soutien, peu importe combien on peut les payer ou peu importe l'équipement qu'on a mis à leur disposition, bien que ils ont prêté serment de défendre le pays, oui, les gars, ils vont déserter.
Oui, Thierry, sur ce point, est-ce que avant que la population ne soit totalement dans la collaboration telle que vous le souhaitez, est-ce que la population n'a pas besoin d'informations?
Bon, c'est ceux qui gouvernent qui pourront vous nous dire pourquoi ils ont fait ce choix-là. Bon, je ne sais pas, ceux qui sont dans la zone où le drame se passe, je ne sais pas s'ils sont informés ou pas. Parce que, pas plus que hier ou ce matin, je crois qu'il y a encore une récente attaque, hein, où ils sont venus prendre des bœufs et tout. Donc, vous voyez que il y a, quand vous suivez un peu les événements qui s'enchaînent, il y a une volonté de ces fous-là qui sont en perte de territoire dans les autres pays, ils cherchent encore des refuges. Donc, ça fait qu'ils viennent vers nous. Ils viennent vers nous, bien qu'il y a des pertes dans nos rangs, mais si les nôtres n'étaient pas aussi efficaces, peut-être qu'ils allaient rester.
Ils ont été repoussés.
Oui, c'est de ça que je parle. Donc, ils ont été repoussés. Ils ont été repoussés. Vous savez que nous avons une programmation militaire, donc avec plusieurs de milliards, un projet comme ça qui a été voté à l'Assemblée nationale. Donc, on essaye au fur et à mesure qu'on avance les forces armées togolaises en matériel et tout. Nous nous maîtrisons. C'est des questions sécuritaires. Sur les réseaux sociaux, les gens disent pourquoi les drones n'ont pas été utilisés, puisque en temps, il y a les drones qui étaient utilisés et on a tué malheureusement des civils. Bon, on ne sait pas pourquoi cette fois-ci les drones n'ont pas été sortis et tout. Donc, ce qui se passe, ces FDS là ont besoin de notre soutien et je crois que tout doit être fait pour les soutenir et qu'on doit leur rendre un vibrant hommage pour leur engagement à défendre notre pays. C'est très important et je crois que depuis que ça a commencé aussi, il y a différents programmes qui sont déroulés dans les savanes là-bas pour soulager un peu les populations, pour que ces fous-là n'arrivent pas à recruter dans nos rangs, parce que l'ennemi ne peut pas vous attaquer s'il n'a pas de complicité dans votre maison. Donc, c'est très important que nos frères qui sont dans les savanes n'alimentent pas les renseignements de ces fous-là qui sont maintenant à notre trousse. Ils viennent comme ils veulent et tout cela. Mais je crois qu'on va venir à bout d'eux. Ils ne pourront pas trouver de territoire ici au Togo.
D'accord. Sylvanus, c'est vrai que le poste avancé à l'ordre de Kwekwa Kandi, ce n'est pas la première fois que ce poste a été attaqué. On se souvient de l'année passée ou l'année dernière où, au même moment ou à la même période, j'allais dire, ce poste a été attaqué. Et cette fois-ci, on a vu également l'attaque qui a coûté, ou du moins ce qui a fait alors des dégâts. Alors, finalement, on pourra dire que l'alerte pourra être donnée si du moins on sait que déjà le poste a été attaqué pour une première fois déjà.
Oui, mais c'est important de communiquer. Quoi qu'on dise, c'est important de communiquer. Mais en même temps, il faut aussi préciser que ne pas communiquer, c'est aussi une forme de communication. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste de la stratégie militaire, mais je considère que ceux qui font ce choix-là de ne pas communiquer ont aussi leurs raisons. Mais par rapport à cet acte terroriste, je crois que c'est le lieu, en tout cas pour moi, de souhaiter ou de... Comment dire ça?
Présenter
mes sincères condoléances à ces familles qui, en ce moment, ont perdu leur fils, ont perdu un frère, ont perdu un père. Donc, ils doivent savoir, en tout cas, que le peuple est avec eux. Nous sommes solidaires et nous compatissons véritablement à leur douleur. Mais en même temps, il est important aussi que nos États comprennent une chose. La lutte contre le terrorisme serait inefficace si les dirigeants de nos États ne prenaient pas sérieusement en compte la lutte contre la pauvreté. Parce que figurez-vous que les zones qui accueillent plus facilement ce genre les extrémistes violents et tout ce qui tourne autour sont des populations ou des zones qui sont enclins à la pauvreté. Donc, en même temps qu'il faut renforcer nos forces de défense et de sécurité, non seulement par la formation, mais aussi par les équipements militaires, il est important aussi que nos États se mettent à l'évidence qu'il est important aussi de développer suffisamment les infrastructures sociales dans ces zones et favoriser justement l'accès à l'emploi des jeunes qui se font malheureusement, qui sont à la merci de ces genres de recruteurs dans leur armée. Donc, quand on parle généralement de terroristes, on a l'impression que ce sont des gens qui sont venus d'ailleurs, qui ne sont pas forcément des humains, mais qui sont un peu comme des robots, qui n'ont pas de sentiments. Mais non! Les terroristes, c'est aussi des humains, ce sont nos frères, ce sont nos parfois même nos sœurs, des gens qui ont aussi fait des études, mais qui malheureusement n'ont, pour la plupart, n'ont pas trouvé de débouché. Donc,
Mais cela ne justifie pas quand même.
Absolument pas. Mais c'est aussi une façon pour eux, malheureusement, d'exprimer leur mécontentement vis-à-vis de l'État. Qui leur donne l'impression de les avoir oubliés. Donc, il est important de favoriser l'accès à l'emploi, à la formation de ces populations-là pour ne plus les laisser à la merci donc, de ces hommes malveillants.
Infirmière, d'habitude, ces gens-là qui sont des terroristes ne donnent même pas des raisons pour lesquelles ils posent même ces actes ignobles.
Non, ils ne donnent pas des raisons. Moi, je pense que ce sont des gars. Excusez-moi de les appeler comme ça, c'est des criminels. Et des gars qui sont instrumentalisés pour passer un message.
Instrumentalisés par qui?
Instrumentalement, écoutez, moi je dis, j'ai l'habitude de dire que là, vous voyez, la démocratie, elle a été envoyée à l'Afrique pour la déstabiliser, tout comme le terrorisme. Moi je le dis toujours.
Envoyé par qui?
Oui, mais le terrorisme, c'est une fabrication occidentale. Aujourd'hui, le terrorisme en Afrique... Attendez, si l'Occident veut que le terrorisme prenne fin en Afrique, le terrorisme va prendre fin.
Et finalement, ces bases militaires que nous avons sur le continent, et qui, d'habitude, on parle des forces, hein, surtout des forces françaises, des forces occidentales, alors pour lutter contre le phénomène.
Non, parce que quand on lutte contre le phénomène, pourquoi regardez par exemple l'Est de la RDC. Il y a toujours de la cruauté. Il y a une certaine déstabilisation de cette zone. Autant déstabilise, autant profite des ressources minières. Quand c'est calme, vous allez vouloir tout suivre. Quand vous avez, vous et moi, je pense, vous et moi, Pascal, le soir, nous avons suivi une conférence internationale où on nous disait que lorsque les Nations Unies viennent s'installer dans une zone, mais ce n'est pas pour la beauté de vos beaux yeux, mais c'est pour ses intérêts, c'est pour leurs intérêts particulièrement. Donc, ces bases-là ne viendront pas fondamentalement nous aider à régler le problème du terrorisme. Et ce qui est encore grave, c'est que nous-mêmes, nous ne pourrons pas. C'est grave. C'est ça, en fait. C'est que c'est comme quand Covid a commencé, on a dit que bon, il faut apprendre à vivre avec Covid. Moi, je vais dire ceci cruellement comme ça. Il faut que le monde apprenne à vivre avec le terrorisme. Bien sûr, nous sommes en train de découvrir les réalités du terrorisme avec tout ce que nous sommes en train de traverser. Mais il faut que psychologiquement, qu'on sache que nous sommes... Comment est-ce que nous sommes appelés à vivre avec cela? Mais notre prière fondamentalement va consister à ce que les plus hautes autorités de notre pays élaborent des stratégies qui puissent aider les forces de défense et de sécurité à repousser régulièrement ceux-là, ces bandits, ces criminels qui cherchent toujours à nous faire du mal. Et aussi, moi, je donne toujours l'exemple de la ville de Nice. On dit quand il y a eu le terrorisme, là, en 2019, je pense, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont installé des caméras partout. Mais ici aussi, notre frontière au niveau de Kouakoukadi, c'est pas trop vaste. Donc, on peut essayer de revoir en termes de matériel, quand on parle de la programmation, elle a l'air sur la programmation militaire, on peut revoir en termes de matériel s'il faut placer des caméras, s'il faut avoir des drones. Nous, on ne connaît rien sur le plan militaire.
Les drones jouent ce rôle-là.
Donc si on peut avoir tout ça, là, moi, je pense qu'on peut régulièrement les repousser. D'accord. Parce que si l'Occident veut qu'il n'y ait plus de terrorisme en Afrique, il n'y aura plus de terrorisme en Afrique.
D'accord. Thierry, est-ce que vous comprenez le fait que aujourd'hui il y a des forces occidentales, bien sûr, qui sont sur le continent et qui disent que elles veulent aider les pays à éradiquer le terrorisme, mais on voit toujours que le phénomène continue par sévir, le phénomène continue par être tellement préoccupant.
Oui, mais vous ne voyez pas que quand on les chasse, on leur demande de fermer leur base dans un pays, rapidement ils cherchent un autre pays pour délocaliser la base. Ça voudrait dire ce que ça voudrait dire. Et vous avez vu les armes avec lesquelles ces terroristes ont attaqué les
hommes. Des armes très sophistiquées.
Des obus. Bon, je ne suis pas spécialiste de la question, mais je ne crois pas que les obus là sont des armes qu'on vend sur le marché noir. Mais les gars qui étaient venus, ils étaient lourdement armés. Ils étaient lourdement armés.
Et très nombreux aussi.
Voilà. Et quand on voit un peu ce qui se fait maintenant au niveau du Burkina, et pour les repousser ou bien pour les neutraliser, c'est les drones en question là qu'on utilise pour d'abord les localiser et passer par après aux frappes. Et puis, je crois que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a véritablement une coopération militaire entre nos différents pays? Parce que ces hommes-là et femmes, parfois, sont venus du Burkina. On parle de 8 à 10 kilomètres de la frontière du Togo. Parce que là-bas, on les repousse. Et ces temps-ci, c'est dans les débats, sur les réseaux sociaux, même sur les médias, c'est une affaire de base militaire française au Bénin. Il y a l'autre là qui avait dénoncé cela, le capitaine Traoré. Donc il y a de ces réalités là. Et n'oubliez pas que le fait que nous avons un chef d'État Faure Gnassingbé très engagé aux côtés de ces pays de l'AES là, tout ça là aussi, ça ne plaît pas à beaucoup. Parce que ces pays qui ont été chassés, et je veux parler notamment de la France et même parfois les États-Unis, ils avaient beaucoup d'intérêt dans ces pays, dans ces pays-là, Mali, Burkina et autres là. Parce qu'aujourd'hui, en Europe, quand on parle d'électricité, c'est l'uranium. Et même dans une pour la fabrication des armes aussi. Mais la France n'a pas forcément la quantité
dont
elle a besoin. Donc, on a besoin de s'appuyer sur nos pays-là. Donc, il y a tout cela qui joue. Donc, il faudrait que les nôtres aussi puissent comprendre, du moment où le chef de l'État est très engagé aux côtés de ces pays-là, pas plus que cette semaine, je crois qu'il y a des discussions par rapport à l'intercornation douanière. Donc, tout ça, là, ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. Même certains pays limitrophes ne sont pas d'accord par rapport à l'engagement du chef de l'État togolais dans la résolution des crises dans ces différents pays-là. Donc, il y a tout ça là. Ça devrait amener les nôtres à redoubler de vigilance par rapport à la sécurité dans la zone.
Merci beaucoup, Thierry. Alors, Sivanis, est-ce que vous comprenez déjà, jusqu'à présent, la CEDEAO, qui est aussi l'espace communautaire, ne dispose pas alors d'une force pour lutter contre le terrorisme?
Mais c'est ce qui est malheureux. Je pense que c'est une problématique qui est ressortie plusieurs fois dans plusieurs conférences, plusieurs débats. Si la CEDEAO s'est dite prête à envoyer des troupes pour établir le président déchu Bazoum du Niger, mais n'a pas fait la même chose quand le Mali a été attaqué, quand le Burkina a été attaqué, ainsi de suite. Je pense que la CEDEAO s'est drastiquement éloignée de son essence même, qu'est le fait d'être la CEDEAO des peuples. C'est malheureusement aujourd'hui devenu un syndicat de chefs d'État qui se défendent entre eux, qui préservent leurs intérêts. Donc, de la même façon, la CEDEAO est déterminée ou était déterminée à coaliser ses efforts pour instaurer un président qui déchue, eh bien, il était important aussi en ce moment qu'ils réagissent. Quand les États sont attaqués, on ne voit pas la CEDEAO réagir forcément. Parfois, il prend acte, ou quand les institutions ou la constitution des États membres de la CEDEAO sont touchées, sont modifiées, la CEDEAO ne réagit pas forcément. Limite, elle prend acte. de ce qui est fait. Mais elle ne dénonce pas. Aujourd'hui, nous avions heureusement un parlement de la CEDEAO avec des hommes et des femmes, des élus qui quand même arrivent à se démarquer, qui évitent le positionnement, mais qui arrivent à se démarquer en se faisant véritablement avocat des peuples. Donc il est important aujourd'hui que les gens
du député
absolument absolument donc je vais finir là-dessus en disant qu'il est important que les gens comprennent que dès lors que vous êtes élu, ben vous devenez un serviteur de la patrie et non du parti qui vous a fait élire. Donc d'accord, il est important de revenir à la source qu'est le peuple et travailler à ce que ses conditions de vie soient améliorées.
D'accord. Firmin, nous allons nous intéresser à ce sujet rapidement avant de clôturer le débat lors de ce matin. Alors, par rapport surtout à cette question de Freedom Togo, c'est ce mouvement politique qui a été comment initié par trois personnalités, François Akila Soboko, Jean-Sylvanus Olympio et aussi Kofi Nyamnyam. Et hier, sur une radio locale, il y a Maître Akila Soboko quand même qui s'est exprimé. Il y a le journal Kana Indépendant qui est revenu sur le sujet, sur le terrorisme politique, Freedom Togo, les grandes révélations de Maître François Boko. Alors, finalement, votre appréciation sur le mouvement qui est initié.
Non, quand vous suivez un peu ce que François Akila Soboko a dit hier, moi je voudrais m'appesantir sur ce sujet-là. Moi je me dis, ils veulent la tenance, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent la tenance, mais moi je me dis, ils se prennent déjà mal. Quand vous suivez un peu tous les propos de Maître François Akila Soboko, ancien ministre de la Sécurité du Togo, vous comprenez que ce mouvement-là n'est pas trop loin. Moi, je me dis, c'est l'échec même de leur mouvement. Parce qu'il n'a pas parlé comme un homme d'État. Alors qu'il est un homme d'État. Akila Soboko, c'est ce ministre de l'Intérieur qui a démissionné le 22 avril 2005. Et c'est lui qui avait regroupé la presse pour dire que ce qui allait se passer au Togo le lendemain du 24 allait être atroce pour notre pays. Donc, il avait demandé à ce qu'on organise une transition de 2 ans et que l'opposition propose ou qu'on nomme un premier ministre de l'opposition. Mais si hier, il a pu tenir un certain nombre de propos, moi, je voudrais m'appesantir sur 3 choses. La première chose, il traite le chef de l'État d'enfant gâté. Vous imaginez un homme de cette envergure, le président de la République du Togo, c'est un chef d'État. C'est un chef d'État. Et puis, il continue en disant, on va le balayer, il tombera. Mais attendez, ce sont des propos puérils. Ce ne sont pas des propos responsables. Et puis, il donne un certain nombre d'informations par rapport à l'armée, par rapport au terrorisme. Vous imaginez, lui, vous, un homme, c'est un gendarme, je pense. Donc, vous, par exemple, un homme en trahi, vous savez, vous mettez un peu toutes les dispositions juridiques qui régissent ce corps. Il y a des propos qui ne se tiennent pas publiquement. Ça, moi, je me dis qu'en réalité, quand vous suivez un peu tous ces propos, c'est la troisième chose, c'est un homme frustré, c'est un homme aigri. Mais je vais conclure en disant ceci. Tous ceux-là qui connaissent François Akila Soboko, qu'on lui demande exactement qu'est-ce qu'il a fait démissionner en 2005. Vous allez demander aussi à l'ancienne ministre des Affaires étrangères du Niger, Aïssatou Midaoudou, qui avait traité la démission de François Akila Soboko d'irresponsable. Pourquoi avait-il démissionné? Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de vérités qui doivent être rendues publiques. Allez demander. Bon, Madou Tandja, lui, il est déjà mort. Mais tous ceux-là qui avaient travaillé au niveau de la CEDEAO à l'époque, dans la transition du Togo, allez leur demander pourquoi avait-il démissionné. Moi, je pense que François Akila Soboko est en train de nous cacher un certain nombre de vérités. D'accord. Et il se passe pour Jésus-Christ alors qu'il ne l'est pas.
D'accord. Thierry,
vous savez que
à ce sujet,
nos confrères qui lui ont permis
de s'exprimer
ont été convoqués à
tout
la RAC.
Tout à fait à la RAC.
Et Dieu seul sait ce qui se passe actuellement ou ce qui va se passer. Vous savez, l'alternance, c'est bon, c'est une bonne chose, mais ceux qui la désirent ou la souhaitent, je ne crois pas que au plus profond de leur cœur, ils veulent cette alternance-là.
Exactement.
Parce que ces messieurs et dames-là, je ne crois pas. Je donne juste un exemple. La dernière crise, 2017-2018, ils ont toujours lutté pour une répartition paritaire au niveau de la CENI. Quand on leur a servi ça, sur un plateau d'or. Les gars ont refusé. Comment vous pouvez comprendre ça? Et il y a eu d'autres opportunités comme ça. Ceux qui se liguent aujourd'hui contre le pouvoir, ils ne sont pas différents des crises successives que notre pays a connues. Et je ne sais pas. Bon, ils vont. Je crois que Bokor est un grand diplomate, Firmin l'a dit, et c'est ça aussi qui braque des fois le pouvoir. C'est vrai, quand on combat quelqu'un, il faut être dur dans ses propos, mais il faut quelque part
des limites, certaines limites.
Des limites et du respect.
D'accord.
Et le pouvoir aussi ne se donne pas aussi facilement comme ça. Maintenant qu'ils sont engagés contre le pouvoir, qu'ils se donnent les moyens pour d'accord. obtenir cette alternance-là. Et je dis surtout qu'ils soient véritablement sincères dans ce qu'ils sont en train d'engager.
D'accord.
Et nous savons aussi que dans notre pays, je ne sais pas si c'est le pouvoir actuel qui a travaillé. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui règne dans notre pays, c'est que quand vous êtes deux, trois ou quatre engagés quelque chose, il y a toujours des taupes qui font couler ce que vous vous êtes engagé à faire. Okay. J'espère qu'il n'y aura pas de taupes entre eux. Devant les micros, ils vont nous dire autre chose. Et la nuit, ils vont faire autre chose.
Ok, oui. C'est juste rapidement, 30 secondes. Quelle est votre appréciation sur ce mouvement?
Bah, écoute, moi je pense que le but ultime que ces hommes et ces femmes, enfin, ce sont des hommes dans ce cas de figure, le but ultime qu'ils recherchent, c'est l'alternance. Et l'alternance, c'est un besoin qui est inhérent à la nature humaine. Il est important que nos chefs d'État africains comprennent que on peut parfois être capitaine. Je vais prendre l'image d'une équipe de foot. Il arrive que, je prends cette image justement parce que le foot, c'est un sport que nous apprécions énormément et qui unit les peuples. Il arrive quelquefois que pendant un match de football, que le capitaine soit remplacé. Pas parce qu'il n'a pas été bon, mais parce qu'il a besoin de souffle. Il faudrait qu'on ramène quelqu'un d'autre pour continuer la marche. Donc, l'alternance n'est pas
ne devrait pas être.
C'est ça l'essentiel. Donc, l'alternance ne devrait pas être fondamentalement un problème. Donc, nous, je veux dire, le peuple se réjouit quand il y a l'alternance et que surtout il y a un changement, il y a une amélioration de leurs conditions de vie. C'est ça l'essentiel. Nous parlons suffisamment de politique en oubliant l'essence même de la politique qui est d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Et c'est ce qui est malheureux. Et il est important finalement que chacun de nous se ressaisisse et la main sur le cœur, lutte véritablement pour d'accord. que le lendemain soit meilleur pour nous tous.
Ok, merci beaucoup Sylvanus, cher confrère, merci. Parce que nos auditeurs s'impatientent à entrer aussi en ligne pour participer à ce débat avec nous. Et donc nous allons leur donner la parole, c'est sur le 90 86 35 35, 91 36 63 75. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Toutes nos excuses alors pour le fait que nous avons égrené un peu sur votre temps. 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez entrer en ligne. Allô?
Oui.
Bon.
Allô?
Oui, bonjour Pélé. Comment vous allez?
Très bien.
D'accord, allez-y.
Bon, je voudrais parler de l'attaque au nord. On parle des djihadistes. Et que le gouvernement ne communique pas. Maintenant, quand il ne communique pas, quel est le résultat positif? C'est ça que nous devons demander. C'est une bonne chose, c'est une stratégie. Mais le retomber, pour que la population soit comme ça. Maintenant, on écoute ça à l'extérieur. L'essentiel pour le gouvernement, c'est au moins de faire bref aperçu sur les médias nationaux qu'il y a quelque chose qui se passe. D'une manière d'interpeller le peuple congolais à se préserver. C'est pas une large communication avec les idées, non, mais une petite communication. Ça se passe dans les deux pays. Parce que son silence ne donne rien à vous depuis que l'attaque a commencé ou non. Mais la deuxième chose, en ce qui concerne le président Thébault, je pense que l'intervention de M. Commandant Akila Boko, ce n'est qu'une fraction de rapport de force. Il faut aller à un dialogue. Point bas. Merci.
D'accord, merci Pélé. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô?
Et bonjour.
Oui, bonjour Basile.
Ah ah. Bon, je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
Abou Maki qui vient de loin. Le commandant François Boko avait dit qu'il faut que l'élection là n'ait pas lieu. Et puis, il est obligé de suivre. Quand quelqu'un vient, il vous dit là-bas, il cite les témoins qui viennent du bout du monde. Nous, on a vu ce que François lui l'a dit. Le Jacques de Boulay a dit ça. C'est ce que moi je vous parle. Ce n'est pas parce que je mange quelque chose quelque part et quand je viens, je dois parler ce que le Togolais connaît déjà. François Boko nous a dit que l'élection là, il ne faut pas faire ça. Il y aura ceci, il y aura ceci. Maintenant, on nous cite des témoins qui viennent du bout du monde. On va aller les demander où. Je vous dis ça. Moi, je serai là pour vous. Quand vous dites quelque chose qui est bien, je dirais vous dire c'est bon. Voilà quoi. Et pour leur mouvement, qui est l'aide, il y a dit la fois passée, on peut être à n'importe où. Le drame que le Togolais vit, si quelqu'un voit que depuis sa situation, là où il est, il peut apporter quelque chose, il n'a qu'à le faire. Parce que ceux qui sont là ne jugent pas la force, la violence inouïe. Mais comment est-ce qu'on va faire? Nous, maintenant, on a travaillé, on a fini. On n'arrive pas à manger à la maison. Mais on dit qu'il y a IDH que nous, c'est nous toujours les premiers. L'homme ne mange pas, il est premier. Ah!
D'accord, merci à toi aussi, Basile, pour ton intervention. 90, 86, 35, 35. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Ça va.
Monsieur Mauto, oui, allez-y.
Salut le plateau. Le mouvement plus dans Togo va aller loin. Dans des personnes qui disent qu'il ne va pas aller loin. Nous avons besoin de la tenance Togo. N'importe quelle action qui peut m'aider à avoir la tenance Togo est la bienvenue. Merci, bonne émission.
Merci, M. Mauto, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô? Allô? Allô, bonjour. Allô?
Allô, bonjour, Canal FM.
Oui, bonjour, Nestor, comment vous allez?
Je vais bien.
Allez-y.
Oui, je remercie les journalistes pour les analyses enrichissantes sur les différents points. Avec 52 500, peut-on avoir la connexion Wi-Fi à la maison? Le nouveau Front populaire en France, dans leur programme, a parlé de l'augmentation du SMIC. Le Sénégal a diminué le prix des aliments de base. Le Niger a diminué de 7% le prix du super et du gasoil. Pour que nos autorités fassent quelque chose sur le plan du terrorisme, il faut plus de renseignements, de coopération policière et de lutte contre la criminalité. Selon Nagali Bakayoko, politologue et président de l'Africa Security Network, il faut des alliances entre États hors des cadres institutionnels comme la CDAO, qui sont lourds d'un point de vue administratif et budgétaire. Merci Canal FM.
Merci Nestor pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô? Allô, bonjour? Allô? Décidément, il n'a pas de retour. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 36, 63, 75. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Ah, merci bien.
Votre nom, c'est?
Dodi de Dalavé.
Dodi de Puy-Dalavé. Dodi, allez-y.
Bon, je remercie les confrères qui sont avec vous. Et je demande... d'une échelle pour nos confrères de Victoire FM qui ont reçu notre grand frère. Bon, le grand frère aussi veut lui revenir au Bercail. Mais ce qu'il lui aussi va faire pour qu'on il puisse discuter, puis faire dialogue pour amener les exilés, parce que de ce canal-là, je suis en train de faire. Le Togo a besoin de tous ses fils pour lui construire. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup, Dodzi. Nous avons quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce vendredi 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô?
Ouais, c'est bien que vous ne me recevez pas.
Allô?
Ouais, Basile.
Oh, Basile, sincèrement, vous, votre radio.
Oui, oui, oui.
Oui.
C'est bon maintenant.
Allez-y rapidement.
Il a diminué considérablement.
Oui, oui, allez-y, allez-y rapidement.
Et pour moi, je vais venir sur le député sénégalais là. Et ce qu'il avait dit, moi, je le disais ici. J'ai dit le pouvoir togolais, c'est le pouvoir qui promeut la pauvreté. Ça veut dire que ce qu'il a dit, que c'est lui qui nous appauvrit. Pourquoi est-ce que là-bas, ça va poser des problèmes? Mais ils n'ont qu'à me demander pourquoi moi j'ai dit ça. Les gens qui, comme Pimet et vous, ils n'ont qu'à me demander pourquoi moi j'ai dit ça. Le pouvoir togolais, c'est le pouvoir qui appauvrit une population, c'est-à-dire qu'à bout de souffle. Mais maintenant, Pimet n'a qu'à me demander pourquoi moi j'ai dit ça. Je ne vais pas citer ça. Il y a une liste qui ne finit pas. Le jour qu'il sera prêt, il n'a qu'à me demander et je vais lui citer ça.
D'accord, avec... d'accord. Merci pour votre intervention. Basile. Et Basile, c'est le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce vendredi. Chers confrères, nous revenons en studio pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Fermé, vous avez écouté les uns et les autres s'exprimer aussi. C'est aussi, en quelque sorte, le principe de notre émission. Et c'est quoi votre réaction?
Ma réaction, elle va être simple. Je voudrais dire, première chose, je voudrais dire ceci. Moi, je souhaite que le Togo mûrisse beaucoup sur le plan de la démocratie. Fondamentalement et sérieusement. Celui-là qui a appelé et qui a dit que des gens vont prendre l'argent et puis... Moi, je me dis, donc quand lui l'appelle ici, donc les gens lui donnent de l'argent pour parler. Quand lui, il critique, donc il va prendre l'argent quelque part pour parler. Donc, il faut que nous sortions de cette puérilité. Il faut que nous mûrissions sur le plan de la démocratie. Moi, je suis tellement ouvert. Hein. Et puis, quand on me critique, moi, ça ne me dit absolument rien. Mais au contraire, je m'en inspire pour dire, pour voir peut-être mes petites erreurs, peut-être quelquefois mes égarements. Mais il faut qu'on ait des débats beaucoup plus constructifs. Il faut s'élever, pas être dans des petites attitudes. Ça, je suis sérieux là-dessus. La deuxième chose, vous savez, quand je commençais par écrire des chroniques, moi, je l'avoue ici, je croyais que je parlais de l'alternance. À un moment donné, je me suis dit, c'est le pouvoir qui ne voulait pas l'alternance. Parce qu'on était jeunes. Je me dis, non, le pouvoir là ne veut pas partir. Mais quand j'ai commencé par rencontrer des gens, fouiner, aller rencontrer ceux-là qui ont fait la démocratie, ceux-là qui ont connu les années 80, 60, 70, ceux-là qui ont connu Yadema, ceux-là qui ont écrit sur l'histoire du Togo, j'ai finalement compris que ce qui bloque l'alternance, c'est l'opposition. C'est l'opposition qui contribue à l'enracinement de ce système. Ceux qui sont, la plupart de ceux qui sont dans l'opposition, ils ne veulent pas que ce régime tombe. Parce que ce régime leur profite, fondamentalement. Même ceux-là qui viennent de parler, par exemple, hier, bon, sur Radio Victoire, moi, je me dis non, ils ne veulent pas que ce régime-là tombe. Parce qu'ils contribuent. Une preuve, ceux-là, vous voyez peut-être dans le système actuel, il y a des gens qui ont critiqué avec véhémence le pouvoir. Mais aujourd'hui, peut-être ils feraient partie des plus ailés. C'est ça, les Togolais ne veulent pas l'alternance. La plupart des opposants ne veulent pas l'alternance. Fonia Simbe les connaît. Fonia Simbe sait que son problème, ce n'est pas l'opposition. Parce qu'ils sont des alliés. Ils sont des amis. Ceux-là qui sont les plus radicaux en disant, oui, ce régime a tombé. Ils vous racontent des contre-vérités. Ils adorent le régime parce que le régime leur profite généreusement.
Okay. Merci Firmin. Thierry?
Oui, je crois que cette haine avec laquelle... Akila Issa Boko s'est exprimé hier, veut tout simplement dire que on doit revoir la gouvernance au Togo. que les choses soient mieux et bien faites. Aujourd'hui, on parle de la 5e République. La fois dernière, je disais, et on nous disait que avec la 5e République, ça va être mieux. Pour moi, rien ne va être mieux. Parce que c'est ceux qui ont toujours animé la 4e République, c'est eux encore qui vont animer la 5e République. S'il n'y a pas de changement de mentalité, c'est les mêmes conneries, les mêmes bêtises qu'on va vivre dans la 5e République. Donc, il faudrait que les choses changent. Maintenant, ceux qui luttent contre le pouvoir, je le dis et je le répète, qu'ils soient sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, ils ont encore engagé une fausse lutte, à mon sens. C'est cette affaire-là d'organiser des meetings autour de retour à la 4e République, nanani, nanana. Ce que nous oublions, c'est que 2025, c'est bientôt. Et il y aura, et il y aura les élections communales.
Oui, mais qu'est-ce que vous aimeriez
qu'il fasse ? Les gens refusent aujourd'hui de siéger parce que
il
y a la 5e République. Mais c'est avec cette 5e République-là qu'on va organiser les élections communales de 2025. Est-ce qu'ils vont refuser d'aller ? C'est ça aussi. Donc, des fois, quand vous suivez l'opposition, vous ne vous retrouvez pas, on ne comprend pas. Ils ont refusé de siéger parce qu'il y a la 5e République. Mais demain, c'est avec cette 5e République qu'on va organiser ces élections-là. Est-ce qu'ils vont aller ? Parce qu'ils ont déjà des maires. Est-ce qu'ils vont accepter perdre encore ces communes-là au profit de ceux qui sont au pouvoir ? C'est aussi ça.
D'accord.
Donc, la politique au Togo, des fois, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a une malédiction ou bien les gens, ils sont complices. Sincèrement, des fois, moi, je n'ai plus envie de réfléchir sur la question politique au Togo. Ouais. Et puis, le pouvoir doit comprendre ce que les Togolais veulent, c'est d'arriver à manger 3 fois par jour.
C'est
qu'on puisse développer notre pays. C'est qu'on puisse mettre les infrastructures qu'il faut, bien goudronner les choses. Ne pas mettre des bassins de rétention d'eau en pleine journée. On va puiser l'eau dans un bassin de rétention d'eau plein et venir reverser dans un autre.
C'est
ne pas envoyer des athlètes à Paris avec 500 000 en poche. C'est qu'on ne veut pas de ces choses-là. C'est tout ce qu'on demande.
D'accord,
que les journalistes soient bien traités, qu'on puisse nous laisser travailler comme cela.
Merci Thierry. Merci beaucoup. Et Sylvanis ?
En tout cas, ce qu'il y a à remarquer, c'est que les Togolais vivent une colère froide. Même dans les appels, on sent qu'il y a beaucoup d'énervement. Il y a énormément de personnes qui souffrent le martyr dans leur domicile. Que ce soit sur des plateaux télé, des plateaux radio. Mais le Togolais souffre. Il est important aujourd'hui. Ouais, nous sommes le seul pays où on nous dit, eux, ils sont premiers en matière d'indice de développement humain. Et nous, les Togolais, on se dit, non, c'est impossible. En fait, on vous dit vous êtes premier, mais vous dites que c'est impossible. Justement parce que on ne ressent pas ou on n'est pas d'accord qu'on soit premier parce que les conditions qu'on dit que nous remplissons, c'est pas exactement ce que nous remplissons. Donc, on ne veut même pas le titre de premier. Il est important aujourd'hui que nos dirigeants comprennent que l'essence de la politique, c'est travailler à ce que les populations vivent correctement. C'est tout ce que nous demandons.
D'accord,
et nous demandons, je vais terminer sur le terrorisme en disant que nous ne pouvons pas parler indéfiniment des conséquences sans parler de la cause. Donc, travailler à ce que la pauvreté soit éradiquée, à ce que les populations vivent correctement et elles ne se feront plus enrôler
d'accord
par ces groupes extrémistes.
Merci beaucoup, Sylvanis Akano. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Hein. Merci d'être passé dans cette émission. Thierry Afanoukwe, journaliste, directeur de publication du journal en ligne Gapola.tg. Merci aussi d'être passé dans cette émission. Ça fait plaisir
merci
d'être avec vous. Firmé Takouabo, chroniqueur. Merci d'être passé aussi dans merci cette émission.
Merci.
Ça fait plaisir d'être avec vous.
Merci.
Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelés aussi. Thomas était de TV assuré. La mise en onde de cette émission, la mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Passez un bon week-end. On se retrouve lundi.
enfants, pour nos parents, ils s'en vont en guerre pour nos acquis, mais ils ne savent pas s'ils reviendront, quel que soit le danger,
ils combattent jusqu'au bout des frontières,
force de défense, de sécurité, pour le Togo
et pour l'Afrique,
force de défense, de sécurité, pour la paix. Pour le Togo, au risque de leur vie, au Dieu de gloire, nous vous attendons tous au pays pour célébrer la grande.